Bonjour tout le monde. Ouh, ce que c'est fort, Christophe Rollin au micro, avec Gérald aujourd'hui, avec également un invité, Francis, pour nous parler de différentes choses. Son blog par exemple, l'actualité lyonnaise ou pas, enfin nous verrons. Nous sommes dans l'émission spectaculaire, nous sommes sur Radio Canu, il est 14h et quelques, vous avez pu entendre un long générique, c'est normal, c'est la reprise en ce mercredi 2 octobre, certains ont des vacances un peu plus longues que les autres. Nous allons donc jusqu'à 15h comme chaque semaine avec cette émission, cette nouvelle émission, hein. Il faut nous accorder aussi, on a commencé qu'en mai dernier, émission 9e je crois. Donc depuis ce temps-là, on n'a pas encore pris totalement nos marques, mais on va bien réussir aujourd'hui. Nous avons donc un invité qui va nous parler de différentes choses. Nous commençons avec une première musique d'introduction. C'est Gérald qui a préparé ceci. Moi, je lis Saint-Georges, Régine Chopineau, Maura Wokis. Maura Wokis, on verra comment prononcer. Rendez-vous, enfin disons, nous restons à l'antenne jusqu'à 15h. Vous êtes sur le 102.2 de la bande FM à Lyon ou bien vous êtes sur internet radiocanu.org. Tout accroché.
Bonjour à tous, chers auditeurs de Spectaculaire. Ce morceau très court d'une minute trente vous aura peut-être sorti extrait de votre sieste. C'était Maura Wokis, donc chante Saint-Georges, une musique d'un spectacle chorégraphique de Régine Chopineau. Une manière d'introduire et de vous présenter notre ami Francis de Coninck, ici présent. Pour poursuivre l'émission donc spectaculaire qui, comme vous le savez, reçoit toutes sortes de gens, s'intéresse à tous les domaines culturels.
Même les plus cons.
Même les plus cons. Il l'a dit, il a raison. Puisqu'il l'a dit, il a raison. Donc Francis de Coninck, pour résumer, il va parler de choses diverses et variées. On a commencé avec la danse, puisqu'il se trouve qu'il est critique de danse, auteur. J'ai sous mon nez deux ouvrages, dont un qui a été consacré, une monographie et des entretiens consacrés à une figure qui doit être méconnue des profanes de la danse, mais qui a l'air intéressant, qui s'appelait Françoise Adret, 60 années de danse. Donc un ouvrage édité par le Centre National de la Danse.
Épuisé, me disais-tu, hein, c'est ça?
Oui.
C'est épuisé, zut.
Alors peut-être un petit mot sur la danse, l'origine Chopineau.
Je suis venu à la danse, voilà. Ou Chopineau et la danse.
Un peu tout ça.
Comment je suis venu à la danse? Alors moi j'ai dansé quand j'étais enfant. Je fais partie d'une génération où le corps était assez tabou. Et donc j'ai dû interrompre ma formation de danseur pour privilégier les études. Sans réellement rompre définitivement avec les cours de danse, et en partant vivre aux États-Unis, j'ai vraiment redansé à un niveau, disons, semi-professionnel. Et puis, à mon retour des États-Unis, alors là, je me suis lancé dans l'écriture de danse et en devenant critique de danse. Et donc, celui derrière, moi, 30, je ne sais pas si c'est une référence, 35 ans de spectacle dans les Mirettes. Avec Chopineau d'ailleurs, et c'est assez intéressant symboliquement de commencer par Chopineau, parce que dans les années 80, il s'est passé quelque chose d'assez particulier en France. ce qu'on a appelé, les spécialistes appelaient la révolution danse française, qui a permis à toute une génération d'hommes et de femmes qui n'étaient pas des danseurs de formation, souvent des plasticiens, des gens sortant du moule étroit de l'université française, parce qu'ils étaient convaincus que le corps était porteur d'une urgence et capable de porter, de véhiculer des discours. Ils se sont fait un petit séjour obligé aux États-Unis parce que là-bas il y avait une histoire de danse contemporaine importante, et dont Chopineau, qui était lyonnaise et qui a été une des premières à travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui le métissage et la diversité. Et très vite, par exemple, c'est assez intéressant que quelqu'un dans un registre prétendument contemporain utilise de la musique sacrée, de la musique moyenâgeuse, mm-hmm. travaille avec des stars de la haute couture. Gautier, par exemple, mm-hmm. lui a demandé très rapidement de travailler sur des costumes. Voilà.
Cette révolution danse des années 80, il y a d'autres noms peut-être connus, de gens qui sont devenus célèbres par la suite, de Gouflet en fait partie ou pas ?
Oui, mais ça c'est la deuxième génération, il y a eu une première génération. La révolution danse française, souvent les spécialistes, et je pense que c'est une erreur, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai travaillé sur cette biographie, je suis devenu biographe. En France, on n'a pas la mémoire des racines, et on explique que la révolution danse française s'explique sur le mode de la continuité historique. Et souvent, les gens, les journalistes l'expliquent comme un phénomène comme ça, né sur le mode de la génération spontanée mmh. sous l'influence américaine, ce qui n'a pas été le cas. Mmh. On le doit, me semble-t-il, grâce à une première révolution au début du siècle dernier, par un chorégraphe. Je veux pas être pompier et pompeux là-dessus parce que ça va nous saouler à l'heure de
mais
la
sieste. Mais l'histoire de la danse est méconnue et intéressante.
Par un Russe qui s'appelait Lifar.
Serge Lifar
a réconcilié l'image de l'homme dansant et permis aux gens de rêver de devenir des auteurs avec un E ou sans E et non plus uniquement des interprètes. Et cette femme, Françoise Adret, fait partie de cette trempe d'artistes-là.
C'est ce qui est écrit d'ailleurs dans la quatrième de couverture, dont je me permets de lire un petit extrait, de son rôle d'étoile dans Le Pas d'acier de Serge Lifar en 1948 à celui de Madame SOS Ballet dans les années 1990, Françoise Adret a cessé de servir la danse sous de multiples formes. Tour à tour danseuse, chorégraphe, maître de ballet, directrice de compagnie, pédagogue, inspectrice de la danse au ministère de la Culture, au fil de cet entretien richement illustré, celle que ses anciens élèves surnomment affectueusement la mère Adret se remémore avec passion ses 60 années de danse, de rencontres et de voyages.
Pour la petite histoire et pour utiliser une image, Françoise Adret, c'est un peu une signorée de la danse.
D'accord.
Physiquement. Mmh. C'était une petite fille bourgeoise qui était plus un garçon manqué qu'une petite danseuse étoile. Et comme petite fille bourgeoise, elle a eu l'occasion de danser. Donc son père, qui était un préfet, lui a donné les conditions de pouvoir réaliser son rêve. Mais de là à le réaliser, c'était autre chose. Et il y a Lifar, et il faut bien remettre ça dans le contexte de la perspective du début du siècle dernier, qui travaillait à l'Opéra de Paris. Il rencontre cette femme, qui était petite, qui avait de fortes poitrines, tout de même les morphotypes à l'époque, mmh, c'était de même mmh. quelque chose. Il faut se souvenir qu'à l'époque de Lifar, c'est-à-dire les années après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas le noir dans la salle oui. pour permettre de faciliter les échanges entre la bourgeoisie et les danseuses. Donc c'était plus un lieu où on allait trouver sa maîtresse pour la sauter le soir que pour danser.
C'est l'écoute.
Ah, donc ouais. voilà, et donc elle lui demande de pouvoir danser dans une de ses chorégraphies. Et il lui cède le pas d'acier. Et cette femme, petit à petit, va devenir la première femme française à créer des compagnies, univers réservé aux hommes. Hein, être auteur, c'est souvent un truc de mec, quoi, tout de même. Mmh. Hein, malheureusement. Mmh. Elle va exporter la danse française et créer des compagnies à l'international. En particulier, toute l'école hollandaise d'aujourd'hui, c'est elle qui en est à l'origine. Et à Lyon, elle va permettre au Lyon Opéra Ballet de connaître une dimension internationale. En particulier, elle va commettre une révolution esthétique importante. Elle va demander, alors que ça ne se faisait plus, à Maggie Marin, mmh. autre française de la jeune génération des années 80, mmh. de relire Cendrillon. Et Cendrillon, aujourd'hui, est distribué dans le monde entier depuis 500 exemplaires.
Ah oui, il y a eu 500 représentations
minimum, je crois, oui.
Et je l'ai toujours pas vu. J'ai honte.
Ben écoutez, c'est normal, un petit prof va généralement sur ces mêmes références.
Maggie Marin, elle était à Rio-la-Pape, c'est ça?
Était à Rio-la-Pape.
J'en parle à l'imparfait, car elle est partie il y a peu de temps, 2-3 ans, je crois.
Il y a moins de ça.
Moins de ça,
il y a 2 ans. Elle est retournée à Toulouse.
Donc je me rends compte, c'est terrible. Enfin, c'est terrible, non? C'est même très bien pour une fois. Je n'ai qu'à assister. Je voulais seulement rebondir et lancer le mot Lyon dans tout ce qui était prononcé. Et ben, je l'ai eu, ce mot Lyon, avec donc cette demande faite d'assurer une relecture pour le Cendrillon. Serait-il temps de passer peut-être à un deuxième thème? Nous allons diffuser, Gérald. Quoi donc?
Un morceau choisi par Francis. Je ne sais pas s'il le mérite.
et tu n'en dis pas plus. Bon, eh bien alors nous écoutons, je lance quand même le terme, je lance quand même ce mot. Nous allons parler dans quelques instants, après avoir écouté cette chanson, nous allons parler de métissage. Nous allons voir qui va nous permettre d'assurer cette transition. À tout de suite.
I'm
spectaculaire sur Radio Canu 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien internet radiocanu.org, et bien spectaculaire continue. Il est 14h et je sais plus combien. Gérald, nous écoutions à l'instant Youssou N'Dour qui nous chantait
My Hope Is In You, extrait de l'album Joko From Village to Town, qui est de l'année 2000.
Alors, Francis.
Oui. Alors, Francis a choisi ce morceau, il adore Youssou N'Dour, et il va nous expliquer pourquoi.
Ah, j'adore, c'est beaucoup dire, oui. Mais j'aime bien la figure artistique de cet homme, et le personnage, j'ai la chance de le connaître un peu dans la vie privée, et artistiquement, je croise très souvent à Dakar, particulièrement son épouse, mais je trouve que c'est un grand bonhomme, et pour plusieurs raisons. Être capable, alors qu'il a les artistes africains qui sont des stars sur la scène internationale, ils se comptent sur les doigts d'une main, c'est son cas. Et lui a cette particularité à la fois de concevoir des albums pour la scène internationale aux standards internationaux, et à la fois continuer à écrire des chansons qui s'adresse au peuple africain. Et ça, c'est fort. Et a toujours à tisser des liens d'extrême proximité avec le peuple à qui il doit son succès, d'ailleurs. Il a été nommé ministre de la Culture, et comme toujours, les intellectuels sont souvent de doux réactionnaires qui s'ignorent, y compris en Afrique. Et bien, les premiers à se révolter qu'un type peu lettré qui a quitté l'école à 16 ans, deviennent ministre de la Culture. Ce sont les universitaires africains qui se sont révoltés. Et il a rempli son mandat merveilleusement bien pour ensuite devenir ministre de la Culture. Mais j'avoue que la thématique du métissage, c'est quelque chose qui me fait, qui m'excite les neurones depuis une quinzaine d'années.
On avait dit Gilberto Gil au Brésil aussi. Internationale, musique ciel, passé au ministère de la Culture. En France, ça arrive pas souvent.
Hein. Mais c'est l'Europe avec ses suffisances.
C'est un peu ça. Hein?
Ah, ça fera encore une autre thématique. Donc, on resitue un peu les choses. Gérald, nous recevons Francis.
Allez.
Je voulais partir sur le verbe qui tient, mais je voulais dire juste avant qui est une figure lyonnaise, figure culturelle lyonnaise, qui tient un blog. On peut en donner tout de suite l'adresse, Francis.
www.francis-la-touche-de-6 Coninck, C comme Cécile, O comme ours, N comme Noémie, I comme Istanbul, N comme Noémie, C comme Cécile, K comme Képi.com. Et ça s'appelle Les Petites Chroniques de Francis de Coninck. Et j'y parle chaque semaine sur un mode impertinent, et j'y tiens, donc sur le mode des coups de gueule et des coups de cœur, de la culture et particulièrement de la danse d'ici et d'ailleurs, de la vie urbaine d'ici et d'ailleurs, et de l'Afrique, et en particulier des expériences nourries de métissage. Voilà.
Alors nous avons donc évoqué en première partie de l'émission, nous avons parlé au tout début de danse avec cette figure de Françoise Adret. Nous l'avons lié à Serge Liffard et également à Régine Chopineau ainsi qu'à Maggie Marin. Enfin voilà, si vous avez manqué ceci, rendez-vous sur le blog de Spectaculaire. Les émissions sont en réécoute ainsi qu'en podcast. Il est possible de réentendre les propos qu'a tenu Francis. Et là maintenant, nous avons fait opérer une transition pour parler par le biais de Youssou N'Dour, pour parler davantage de métissage. C'est-à-dire, l'expression m'a plu tout à l'heure, de excitation des neurones.
Oui, alors moi c'est très concret, ma rencontre avec ce que j'appelle aujourd'hui, parce que je l'ai un peu conceptualisé et théorisé, au bout de 16 ans, il y a 16 ans, j'arrive en Afrique pour des raisons qui me regardaient, privées, d'ordre privé, mais aussi
pour
au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, par hasard, mais aussi parce que je m'intéressais à la culture des Peuls. Alors pour la petite histoire, un jour, dans ma salle de bain, en me brossant les dents parce que je connaissais un Peul, je me suis dit « merde ». Est-ce que si les hommes étaient issus de cultures matriarcales, ce qui est le cas des Peuls, l'humanité serait aussi violente? Et j'ai acheté un billet d'avion, je suis parti au Sénégal pour rencontrer les Peuls. Mais comme je suis quelqu'un, tout de même un bon petit bourgeois, qui aime son confort, j'avais ni envie de sombrer dans le populisme extrême pour m'apitoyer sur le petit peuple qui est pas si malheureux que ça en Afrique, ou l'aristocratie africaine, donc j'ai pris un truc et puis j'ai observé. Et je suis tombé amoureux de l'Afrique, non pas tant de l'Afrique, de ce que j'apprenais sur moi en Afrique, ce qui est différent. Et de là, je me suis aperçu J'avais fait un truc en fac il y a quelques années en ethno-sociaux là-dessus, sur le discours blanc dominant, etc. Et je me suis aperçu que vraiment qu'il était urgent pour notre Europe vieillissante de se nourrir de la pensée des autres. Mais pas sur un mode intello, comme en France on excelle dans cette truc, intello, page 8 du Monde, qui fait peur à tout le monde, même si le monde est devenu plus lisible aujourd'hui qu'hier.
Ou revanchard, intello ou revanchard agressif aussi.
Hein. Oui, il y a ça aussi, mais bon, on est tout de même très élitiste, une récente étude vient de le montrer encore, anglo-saxonne. Oui. Bon bref, toujours est-il, j'en reviens au métissage, j'ai essayé de voir dans quel... dans quel lieu particulier on pouvait faire évoluer les choses. Je vais donner des exemples concrets. Oui. Combien de fois j'entends un prof dire et hurler dans sa classe. Oui, oui, parce que c'est le même.
C'est un milieu que vous connaissez bien, Francis.
Je connais bien, j'ai enseigné longtemps, et donc c'est parce que j'ai enseigné longtemps que je le connais bien et que je suis extrêmement exigeant avec cet univers-là. Mm-hmm. Combien de fois dans ma vie j'ai entendu des profs engueuler des gamins et leur dire « Regardez-moi dans les yeux ». Or, on sait très bien qu'en Afrique, on ne regarde jamais droit dans les yeux un Africain. Autre exemple, donc ça, c'est ça participe de l'émergence d'une pensée métisse. Ouais. Je vais vous donner un autre exemple dans le domaine des hôpitaux. La prise en charge du corps souffrant en Occident est prise en charge par la famille et par le corps soignant. La famille limitée à un homme et une femme. Mais notre monde est métissé aujourd'hui. Et les gens qui sont en France et qui sont d'origine nord-africaine, sud-africaine, sud-américaine, ont besoin du clan pour porter le malade. Et aujourd'hui, l'hôpital amorce cette révolution.
Toby Nathan et l'ethnopsychiatrie aussi
Pareil. Donc, l'émergence d'une pensée métisse s'impose dans le champ occidental, faute de quoi nous allons mourir de notre propre mort et de nos suffisances. Et donc, je travaille là-dessus depuis 16 ans.
C'est un phénomène d'entropie, c'est ça, qui est en train de se produire en Europe.
Absolument.
Et pour annuler ce processus...
Il y a quand même pas mal de chercheurs qui travaillent là-dessus.
C'est de la botanique, alors il faudrait donc procéder à des boutures. C'est quoi déjà le terme?
Je crois que c'est des boutures, effectivement. C'est que ça sorte des... C'est pas une histoire aussi compliquée que ça. C'est une histoire de modestie. C'est une histoire de regarder l'autre, d'écouter l'autre et de remise en cause. Et d'avoir toujours conscience dans le moindre de ses actes, dans la moindre de ses prises de parole, de se dire « Est-ce que le monde entier, dans sa majorité, pense et fonctionne de la même manière que moi ?» Force de constater que non.
Eh oui.
Et à partir de ce... Quand on arrive à enclencher cette mise en doute... au quotidien, dans des gestes ordinaires, dans des actions ordinaires, on se donne les chances de bousculer sa pensée et de se donner de l'énergie nouvelle pour revoir et revisiter le monde.
Alors, est-ce qu'il y a des valeurs universelles? Parce que là, ça tourne quasiment à la philosophie, mais c'est important. Est-ce que l'Occident a le droit d'essayer de transmettre ses valeurs d'universalité? Est-ce que c'est une charge, un poids, un fardeau de l'homme blanc, un credo de l'homme blanc?
Oui, bon, c'est un peu comme les droits de l'homme. On sait très bien que dans les institutions internationales, c'est le blanc dominant et le discours blanc qui a mis en route et mis en œuvre et établi et écrit les textes de loi. Pour autant, c'est un moindre mal et qu'il faut faire avec. C'est surtout la conscience... de ces suffisances qui permet de limiter les dégâts que l'on fait sur l'autre.
De toute façon, la réalité nous rattrape.
Attention, encore une fois, c'est pas dans une lignée humaniste. Un petit peu. C'est avant tout pour se sauver soi-même.
Je ne crois pas
aux gens très généreux.
L'altruisme.
Oui.
L'enfer est pavé de bonnes intentions, comme dit la parabole biblique.
Ne coupez-moi pas la parole sans arrêt.
On n'arrête pas d'interrompre là. Gérald, au fond de la classe.
On voit que vous êtes un castrateur de parole dans votre classe.
Oui, vachement.
Je pense que...
Francis, oui.
Il m'a fait oublier le film de ma
Il en sait quoi? Oui, c'était les valeurs dominantes des Blancs. C'est un moindre mal.
Oui, c'est un moindre mal. Moi, je pense qu'il
faut
toujours...
Il
faut s'oublier soi-même un peu, écouter l'autre et se remettre en cause.
Et nous n'avons pas encore évoqué éventuellement ce terme que j'apprécie bien, c'était la philologie. Voilà, à défaut de parler de philanthropie, parlons éventuellement de philologie. Pourquoi ? Parce que sur le blog de Francis de Coninck, je lisais un billet il y a quelques temps, je crois que c'était dans les archives, on peut naviguer très agréablement sur ce blog. Je tombais sur l'affaire Diallo et le mot de Peule. Le mot Peule a une signification, il signifie en plus quelque chose de très simple, je crois. C'est quoi déjà, Francis ?
C'est une ethnie de bergers au départ.
Le mot peul lui-même, c'est la langue, c'est en wolof, c'est ça ?
Non, c'est pas. Là, vous me prenez à blanc.
Oui, on apparaît.
C'est un papier qui date d'il y a longtemps.
Il y a deux,
mais
trois
j'avais
ans.
Essayé au travers de ce misérable fait divers.
Très bien. Traité, on resitue comme ça, ça c'est parfait.
Traité. Qui concernait tout de même un éventuel personnage important qui allait devenir peut-être un homme d'État français, n'est-ce pas ?
Nous parlons de Dominique Strauss-Kahn.
J'avais écrit un papier sur la façon dont on parlait de cette femme, non pas pour l'innocenter, mais pour retracer un peu d'où elle venait et les valeurs culturelles qui étaient liées à son ethnie. Et en particulier chez les ethnies Peul, qui est une ethnie matriarcale. Une femme qui se dénonce, qui dit sur la place publique qu'elle a été violée, c'est se condamner à l'isolement le plus total. Et j'avais aussi évoqué des valeurs d'orgueil, d'éducation, etc., etc. Mais tout ça sur un mode café du commerce. Je ne suis pas ethnologue et spécialiste des Peuls.
Moi, j'avais été attentif. Le mot peul était analysé. Je vous invite, auditeurs, à vous rendre sur le site que nous avons déjà indiqué. Oui, il y avait un billet d'ailleurs de notre site à nous, de Spectaculaire, du blog, qui annonçait que nous recevrions aujourd'hui Francis de Coninck. Et je donnais l'adresse du blog. Il suffisait de cliquer sur le nom de Francis de Coninck. Notre blog à nous, c'est Spectaculaire. Je crois qu'il faut l'entrer dans un moteur de recherche, il me semble. Spectaculaire Radio Canu. Vous tomberez sur ce blog qui annonce différentes choses. Nous, on ne tient pas trop de billets. Et donc, en se rendant sur le site, on pourra retrouver. Francis a retrouvé également
quelque
chose.
Non, je n'ai pas retrouvé. Nous parlions de métissage. J'ai vu. Je voudrais vous raconter une anecdote qui a eu lieu vendredi dernier et qui concerne le spectacle vivant. Il s'est passé un truc qui est passé assez inaperçu à Lyon. Mmh. Le préfet a invité Mourad Merzouki à investir la République, les ors de la République. Donc Mourad Merzouki, pour ceux qui ne le connaissent pas...
C'est
la compagnie Kafig. Il est directeur d'un centre chorégraphique national à Créteil. Il est directeur d'un centre à Bron, le centre Paul Pic, spécialiste dans les danses urbaines.
Et est-il lyonnais d'origine ?
Lyonnais d'origine et c'est quelqu'un qui a une renommée internationale. Vraiment le français issu de la mouvance hip-hop. Qui est connu sur la scène internationale pour mettre une petite étiquette sur la scène du théâtre vivant. Il produit un rap un peu néo-soft, on va dire. Oui. Mais c'était pas de ça dont je parlais. Oui. Donc le préfet avait convié Mourad à investir la préfecture. Et c'était assez intéressant parce que de constater qu'il y avait très peu d'élus de la République lyonnais. Nous sommes pourtant en campagne, les municipales, c'est pas longtemps. Un peu comme si l'intégration, la diversité, c'était dans le discours, mais ils en avaient rien à foutre, nos élus, et surtout de gauche d'ailleurs, parce que c'est cela qu'on condamne en plus. On est en droit d'espérer que la gauche soit un peu plus ouverte. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Et il y avait là, à l'entrée, une compagnie de femmes. C'était assez surprenant. Bon, c'était, à mon humble avis, une compagnie de spectacle qui n'était pas top, top. Mais c'était une compagnie dans un univers de rap qui est un univers extrêmement masculin. C'était des femmes métissées. Il y avait une black avec un morphotype d'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, je pense qu'elle était sénégalaise. Et j'ai regardé sur le internet, sur leur blog. Elle se consacre exclusivement à la cause des femmes et aux violences faites aux femmes. Et la diversité était menée loin dans les détournements parce que on avait une chanteuse lyrique qui dansait du rap et du rap violent, du rap radical et des chutes extrêmement violentes. On avait une danseuse blanche qui chantait des chants traditionnels d'Afrique de l'Ouest. Et c'était intéressant. Je trouve que ça, premièrement, cette manifestation populaire au sens noble du TED a été très peu relayée par les médias. Et on n'a pas vu les bobos, les petits profs habituels du TNP venir tout de même encourager leur public. Ils n'étaient pas là. On n'a pas vu les hommes politiques. Ils n'étaient pas là. Bon, bref, mais il y avait cette petite compagnie que je tiens à saluer. Malheureusement, je n'ai pas mémorisé leur nom, mais vous pouvez le retrouver en allant sur Google, retrouver un peu le programme de cette manifestation.
Bon, est-il temps d'opérer à une autre transition?
Il n'est pas passé à Fourvière cet été aussi?
Qui?
Merzouki?
Je crois pas, bien.
À voir. Ouais, nous allons regarder l'actualité de Café Gal. Paul Pic, oui, je crois avoir reçu des informations dernièrement. Écoutez, allez, petite pause. Écoutons. Nous passons de Youssou N'Dour à Léopold Sindar Senghor, un poème qui s'appelle Gérald Chaka.
Chaka, voilà.
Je crois. Poème lu
par l'auteur.
Poème lu par l'auteur, c'est très bien. Et nous continuons, toujours sur Spectaculaire, toujours sur Radio Canu.
Léopold Sindar Senghor.
La faiblesse du cœur est sainte. Ah, tu crois que je ne l'ai pas aimée. Ma négresse blonde d'huile de palme à la taille de plume. Cuisse de loutre en surprise et de neige du Kilimandjaro. Sein de rizières mûres et de collines d'acacia sous le vent d'est. N'olivée aux bras de boa, aux lèvres de serpent minute. N'olivée aux yeux de constellation, point de besoin de lune, pas de tam-tam. Mets sa voix dans ma tête et le bout fiévreux de la nuit. Ah, tu crois que je ne l'ai pas aimé. Mais ces longues années, cet écartèlement sur la roue des années, ce carcan qui étranglait toute action, cette longue nuit sans sommeil. Gérée, cavale du Zambèze, courante et ruante aux étoiles, rongée d'un mal sans nom comme d'un léopard sur le garou. Je ne l'aurais pas tué si moins aimé. Il fallait échapper au doute, à l'ivresse du lait de sa bouche, au tam-tam lancinant de la nuit de mon sang, à mes entrailles de lave fervente, aux mines d'uranium de mon cœur dans les abîmes de ma négritude, à mon amour, à un olivier pour l'amour de mon peuple noir.
René de Pestre.
Et les poètes continuent à lire d'autres poèmes. Nous ne sommes pas des poètes, nous sommes des animateurs. L'émission Spectaculaire continue sur Radio Canu. Il est 14h et quelques minutes, je ne sais pas, 30, 35, 33, 34. Écoutez le 102.2 sur la bande FM lyonnaise ou bien connectez-vous sur radiocanu.org pour davantage savoir l'heure si vous voulez. Je ne sais pas. Nous écoutions Léopold Sindar. Voilà, je ne sais jamais comment prononcer.
Senghor.
Sindar Senghor pour parce que notre invité Francis de Coninck qui tient un blog lyonnais et qui parle de différentes
est aussi africanophile.
Africanophile, africanologue, et ça me fait penser, c'est pas une chanson de César Évora, Africa Africanossa, il me semble,
c'est
elle a quelque chose comme ça, notre Afrique. Gérald, petite explication de texte sur ce poème Chaka.
On écoutait Chaka, sorti d'un recueil le plus célèbre peut-être de Senghor, éthiopique de 1973. C'est tout ce que j'ai à dire.
Non, mais ça fait le lien avec le métissage.
Et voilà, bien sûr.
C'est une figure emblématique. Alors, toujours en lien avec ma découverte de l'Afrique. La première femme que j'ai rencontrée à Dakar, c'était la première femme, elle a aujourd'hui entre 80 et 90 ans. Ça a été la première femme médecin du Sénégal. Donc, avec elle, j'aime m'entretenir parce qu'elle me racontait ce regard que portaient les Européens sur les Africaines émancipées et lettrées. Et hasard, c'est la nièce de Senghor. Donc, elle m'a beaucoup... Bon, je l'ai fait beaucoup parler de Senghor quand il était ministre, de Senghor dans sa vie privée. Et autre hasard, l'un de mes meilleurs amis qui est diplomate, son papa a été ministre de la Culture à l'époque de Senghor. Donc pareil, c'était deux sources. Donc tout d'un coup, j'avais un Senghor que j'approchais dans sa quotidienneté, raconté par deux témoins, et c'était Pulle Saint-Gor que j'avais, dont j'avais effleuré l'œuvre, et qui me disait pas grand-chose, même si elle me parlait un peu, quand j'étais à la fac ou quand j'étais au lycée, ou au travers de mes lectures. Mais je ne suis pas un Saint-Gorien pour ses écrits, je suis davantage un Saint-Gorien pour l'homme qu'il était, et particulier l'homme politique et l'homme de culture.
Oui. Qui est le fondateur de la Grande Biennale de Dakar.
Absolument. C'est tout de même fort. Hein. Alors, je sais bien qu'il y a un contentieux entre les jeunes générations. Elles trouvent, on peut relire l'histoire tout de même toujours. On le trouve aujourd'hui soft. Les gens des dom-tom l'ont trouvé très soft par rapport aux Occidentaux. Voilà. Il n'empêche. Un homme africain, le premier homme président africain qui accordait plus de 30% de son budget à la culture, qui a organisé, parce qu'il en était intimement convaincu, la première biennale des arts nègres, mais qui a remporté un succès considérable sur la scène internationale et qui a permis justement de s'approcher au plus près des productions littéraires, artistiques, cinématographiques de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique, c'était tout de même une révolution. Hein. Le regard qu'il portait sur l'autre aussi, cette conviction qu'il avait de ce qu'on pouvait trouver chez l'autre, hein, dans sa culture, prendre de bon pour nourrir sa propre pensée... Pour moi, c'était un révolutionnaire, ce mec. Un révolutionnaire soft, mais je préfère les révolutionnaires soft. Pendant longtemps, j'ai cru que les révolutionnaires à coups de bâton, mais on a vu ce que ça a donné. Les révolutionnaires, souvent, après, ça donne des pays extrêmement totalitaires. Il y en a encore qui continuent à y croire. Je les pardonne quand ils ont 20 ans, qu'ils en ont 30. Mais quand ils en ont 60, c'est des bons vieux tocards qui feraient mieux de faire leur petite révolution de pensée.
Ah, est-ce qu'on
ça c'est bien envoyé. Hein.
Faut nommer, non.
C'est bien envoyé. C'est marrant, ça rappelle un débat.
Non, je veux pas rentrer dans les querelles de personne, mais par exemple, si on parle sur un niveau politique, sans être des révolutionnaires, quand je vois qu'en France encore, il y a des vieilles générations qui se revendiquent encore du Parti communiste et qui n'ont pas fait le deuil de la pensée marxiste, et tout d'un coup ils font l'impasse sur les emprisonnements, sur la main. Mise du pouvoir. On avait un type qui faisait rigoler tout le monde à l'époque de ma génération. Il s'appelait Marché. C'était un doux totalitaire, quoi, tout de même. Moi, je suis d'origine relativement modeste, cadre moyen, mais j'ai habité dans une ville très ouvriériste, avec un port. Pour travailler dans le port, il fallait appartenir à la CGT. Si t'étais pas à la CGT, t'avais pas de boulot. Alors, à l'époque, les dockers gagnaient beaucoup de travail. Mais c'était mais vraiment des bons fachos de première. Alors, on peut expliquer tout ça, quoi, mais défendu, etc. Bon, non.
C'était où ?
C'était à Dunkerque, dans le nord de la France.
En quelle année, alors, au fait ?
Moi, je suis né en 50, donc j'ai commencé à m'intéresser très vite à la politique. Mm-hmm. Pourquoi vous voulez connaître mon âge ? J'ai aucun problème.
ça y est, on l'a pris.
Mais je ne désespère pas de faire un listing de bas de visage pour soigner mon outil de séduction.
Allez voir une photo de Francis de Coninck sur son blog. Vous verrez, il pose bien avec un air pensif, en train de réfléchir.
Francis n'est pas que l'auteur d'une monographie sur Françoise Adret, de documentaires aussi, j'ai appris, que j'aimerais bien les voir. Les documentaires sur la danse pour la télévision.
Pas que la danse.
Oui, d'autres choses. Et Kandoko.
Alors là, j'en suis fier de celui-là. Ah. Il y a des choses que j'ai écrit un roman, c'était vraiment... Là, je me suis planté parce que c'était un peu trop prétentieux. Mon petit bouquin poésie, ça a très bien marché en Afrique. Mais il y a une époque où j'aimais beaucoup ça. Malheureusement, aujourd'hui, c'est difficile. Avec les gens de Caméra, à l'époque, c'était la première agence lyonnaise. C'est eux qui ont fait la première télévision libre en France, avec des mecs talentueux comme Michel Jaget. Donc, il m'a aidé à produire des gros documentaires qui ont été diffusés de 52 minutes dans des choses qui coûtaient très, très cher. Mmh. Et il y en a un dont je veux bien raconter l'histoire.
Oui, on a le temps.
Donc, c'était sur qui est né à l'époque, il y avait TLM, et TLM qui était la télévision émergente, qui n'était pas cette télé misérable d'aujourd'hui.
Télé livre de merde.
Non, j'irai pas jusque là parce qu'il y a des gens qui bossent.
Il y a des bonnes émissions.
On fait avec les moyens du bord et avec les consignes que l'on a. Mais bon, je découvre pour cette émission, on animait un magazine culturel. Et puis il fallait chercher des sujets. Je vois sur une affiche un danseur kujat danser avec une danseuse valide et une danseuse en fauteuil roulant. J'aime pas l'art quand ça fait un peu socio-cul. Moi, je m'en méfie tout de suite. Je dis oh là 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 là, il y a des profs, des socio-cul derrière.
Ah,
ça
non.
Fait de l'animation socio-culturelle. C'est pour vous taquiner.
Pour expliquer cette haine du prof.
Mais je n'ai pas de haine. Je n'ai de haine que contre moi-même.
Ah, ça va alors.
Donc quand j'ai vu ça, j'y suis allé, puis j'ai été fasciné par ce que j'ai vu et par l'histoire. L'histoire est la suivante, c'est une femme qui a 20 ans, qui est anglaise, qui était amenée à avoir une carrière extrêmement prometteuse, qui danse un dimanche alors qu'elle a un gros rhume et à cause de ses sinus enflammés. Elle fait une chute, elle se brise les cervicales et voilà, condamnée. Ça fait un peu café du commerce misérable, mais les histoires, c'est parfois
misérabiliste.
Ça.
Misérabiliste.
C'est pas misérabiliste, c'est la réalité puisque c'est une histoire vraie. Mmh. Et quelques temps après, une dizaine d'années après, il y a un chorégraphe anglais d'origine indienne qui va la voir, qui existe toujours aujourd'hui, un très bel homme, très talentueux, et lui dit Esther, tu vas danser avec moi dans une vidéo sur que me commande BBC Two. Et bien sûr, elle refuse parce qu'elle voyait pas comment elle allait danser dans son fauteuil roulant. Et en fait, il la convainc de danser. Ils font une vidéo dansante où il la prend dans ses bras, etc. Et ça apporte un tel succès qu'il crée une compagnie pour valides et non valides, parce qu'on dit pas handicap. Parce que handicap, c'est la main qui tend le chapeau. Mmh. En anglais, c'est péjoratif. Et les Anglais sont très en avance.
Vos amis. Mmh.
Hein, dans l'intégration, une forme de métissage. Mmh. Et donc, j'ai fait un documentaire sur cette troupe. Et vraiment, je suis content de l'avoir fait. Parce que ça a permis, au travers de ce documentaire, de le présenter auprès de plein de gens et de partager un peu cette ébauche, parce que ça a donné naissance, modestement, en faisant venir cette troupe en France aussi, ça a donné naissance à d'autres compagnies également.
Mmh. Bon. Tu souhaitais, Gérald, parler d'un livre de métissage, et puis on va écouter un autre grand poète de la négritude.
Ouais. Avant, je veux peut-être parler de ce petit livre, mais je ne l'ai pas lu, j'aimerais bien le lire. Je découvre à l'instant, quasiment, Sénégal, mon ami, donc les 11 étapes du Kaïdara, édition Néas, nouvelle édition sénégalaise, par Francis de Conin, qui s'y présente, notre invité du jour. Je pourrais citer la quatrième.
Vas-y, je t'en prie.
Vas-y, t'allais dire.
Je dis les Néas, c'était d'autant... J'avais écrit ce manuscrit, et il a été... Par le plus grand des hasards, j'étais à Dakar, je commençais à l'envoyer chez des éditeurs français. Et c'est la maison créée par Senghor. Donc c'était symboliquement fort pour moi qu'on le prenne et qu'on l'édite, même si je n'ai pas gagné beaucoup d'argent avec ça. Mais je suis content parce que... Vas-y, lis la quatrième de couverture.
Alors l'œuvre...
Attention. Oui.
J'aime ta mélancolie qui se porte toujours le sourire aux lèvres et le regard hautain. J'aime la puissance d'amour de tes mères. J'aime la dignité qui habite tes peuples. J'aime ta retenue. J'aime ton rapport particulier au temps. J'aime la créativité de ton peuple. J'aime ton rapport au verbe. J'aime l'irrévérence de tes nouvelles générations qui bousculent les valeurs. J'aime tes prières qui s'imposent dans la réalité quotidienne. J'aime enfin et par-dessus tout tes défauts qui ressemblent aux miens. Je t'aime, tout simplement.
L'histoire de ce petit livre, j'avais suffisamment de matière, puisque je travaillais sur cette idée de métissage, même si je ne l'avais pas encore vraiment théorisé. J'avais suffisamment de matière, il me semblait, pour constituer un ouvrage. J'avais vraiment pas envie de faire un truc sur un mode socio-ethno. Mmh. Et il m'est venu ce qu'on appelle un peu, chez les cathos, la providence. C'est-à-dire, je me suis dit, un jour, je vais écrire des lettres d'amour. des lettres d'amour où un blanc censé représenter l'occidentalité s'adresse à un black qui s'appelle Sénégal, censé représenter l'africanité, une Afrique, hein. Une Afrique, l'Afrique de l'Ouest, parce que l'Afrique est multiple. Mmh. Et je parlais de thèmes qui généralement interpellent les Occidentaux, l'amour, le désir, les arts, etc. etc.
L'occidentalité, il aurait fallu dire l'occidentalitude. Écoutons un poème d'Aimé Césaire lu. Alors Gérald, tu as trouvé ça? Est-ce légal?
C'est repiqué, c'est un podcast qui nous vient tout droit de Marie Richeux, pas la peine de crier, sur France Culture. C'était lu par des élèves et par des... Voilà, des acteurs de la Comédie française.
Bon, très bien. Alors nous écoutons ce poème et puis ensuite je pense que Francis nous fera également une lecture. Écoutons ce poème. Alors ça va être techniquement, je vais tenter de réaliser ceci et puis on continue sur Spectaculaire, toujours sur Radio Canut.
Vous écoutez France Culture.
Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir.
Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur?
J'ai décidé de faire le noir, comme ça moi je fais le noir et...
L'élève nous expliquait pourquoi il a choisi de faire le noir. Un poème d'Aimé Césaire que nous écoutions, c'est Est-ce légal, nous rediffusions du France Culture, un podcast à trouver du 3 mars 2011. Ça ne doit plus être trouvable.
Ah si, poème du jour, il y en a des milliers.
On peut encore écouter.
Pour les hommes anglais.
Mais écoutons notre poème du jour, lu par Francis dans son livre Sénégal, mon ami. C'est bien ça?
Qui sera précédé ma lecture d'une citation d'Amadou Ampateba, que certains connaissent, qui a vraiment permis de connaître la culture peule. La bonne tradition veut qu'après un long voyage, celui qui en revient n'entre pas en plein jour au logis. Il attendra à quelque distance que le soleil décline fortement vers l'ouest et répande sur la nature son or, couleur porte-bonheur. Mon texte. Cher ami, c'est le soir toujours que ton pays m'accueille. Il me faut quelques heures pour saisir et comprendre le changement radical auquel je dois faire face. C'est dans un plongeon mené sur le mode de la self-immersion culturelle incontrôlée que j'impose un parcours solitaire pour opérer ma transformation du pensée blanc au pensée noir. Je sais qu'il me faudra plusieurs jours pour me défaire de mes réflexes physiques habituels et malmener ma façon de penser. Je préfère les tenues noires pour mon arrivée, le changement de point de vue qui nécessite de l'effort toujours, à quelques difficultés parfois à se concilier avec mon statut de vacancier. Le bouleversement sensuel imposé par le passage du tout aseptisé au tout olfactif ne relève pas de l'évidence, le basculement culturel encore moins. Dans la solitude de cette première nuit, j'aime retrouver ta moiteur, ton extravagance et ton insouciance sonore. Je devine ta nuit et scrute tes rêves silencieux de capitale fêtarde. C'est au lever du soleil toujours que de ma terra j'entrevois ton retour à la vie, ton peuple déjà s'affaire sur les nombreux travaux qui balisent ta cité. J'aime ces retrouvailles faites de mille et une questions, de doutes souvent. La séparation impose sa lecture occidentale pessimiste. Aurons-nous encore des choses à nous dire et à partager? M'accepteras-tu chez toi une fois de plus? Toléreras-tu encore et toujours mes clichés d'intellectuels de gauche plus artistes et poètes comme d'affaires ou politiques? Supporteras-tu encore longtemps ma forte propension à vouloir donner des conseils là où je mériterais d'en recevoir. C'est ton sens inébranlable de la fidélité et du partage qui parvient à apaiser les tout-babris qui me caractérisent. C'est ta capacité à me surprendre qui impose ma présence ici. Ta tolérance me rend admiratif. C'est le premier jour toujours que je prends des nouvelles des tiens. T'es bonne, excelle dans ces séances de rattrapage de vie où j'apprends la mort d'un oncle, la naissance d'une fille, le mariage d'un cousin. Des grands travaux et des petits potins, elle livre les secrets sans jamais oublier de s'informer de la vie de ma parenté. Sous des airs de grande cité, Dakar a d'éternels accents de grand village. Rien ici n'échappe à tes oreilles, à ton regard. C'est quand ta maison est livrée au contrôle des fatous et des gardiens que je me prépare le mieux à nos retrouvailles. Leur accueil est toujours très chaleureux. C'est sans doute avec eux qu'il m'est donné de mieux, de comprendre le mieux la réalité de ton peuple. Leur lecture des derniers événements politiques aux conflits sociaux a toujours une modération et une tolérance qui me surprennent. De leurs patrons ne font-ils pas d'excessives louanges? L'occidental ne mettrait-il pas davantage de rébellion ou de protestation dans sa lecture du monde? Le premier soir, quand le soleil décline loin à l'ouest, révélant tes îles cousines, je m'invite enfin pour satisfaire ton goût pour la bienséance et l'élégance discrète. Je retrouve le sens de l'apparat. Pour la vie publique de Paris, j'abandonne la tendance XXL pour des tenues plus formelles de celles que mon âge impose et qui en rien ne peuvent agresser ceux qui n'ont rien à montrer. Tu me surprends toujours par ta lucidité à ne jamais oublier, quelles que soient les circonstances, la misère économique des tiens. Le premier soir, de la palette des couleurs, je limite la gamme au blanc et au noir, pour lequel tu as une prédilection notoire. Je recouvre mon corps, habitué à plus de dénuement. Jamais sans doute n'ai-je autant réalisé qu'ici combien le toubab avait tendance à oublier son âge pour élaborer sa garde-robe et à étaler à nu, ce qui n'était plus tout à fait désirable. Jamais sans doute n'ai-je autant réalisé également le poids du l'âge qui impose ses images et ses rôles. Et c'est avec soulagement, en somme, que j'abandonne ici la course au temps de l'Occident qui s'accommole fort mal du vieillissement pour davantage de conventions, de silence et d'interrogations. Quand sur ta maison le soleil répand au plus fort ton or, alors je frappe à ta porte. C'est le regard baissé, l'accolade discrète, que nous saluons enfin nos retrouvailles. Et c'est après avoir mangé autour d'une bonne bouteille et rarement d'un verre de thé que je me surprends à oublier que pendant plusieurs mois nous avons été séparés. Je sais qu'après ces premiers échanges, il faudra attendre plusieurs autres soirées pour pouvoir plonger un peu mieux au cœur de nos réalités. J'aime ton mode de retrouvailles qui impose la mise en scène et les déguisements formels, où l'essentiel est tu parce qu'il relève de l'évidence, où le léger est célébré pour dire l'amitié, où le partage impose sa générosité. Sénégal, redis-moi encore et toujours que je suis le bienvenu chez toi, que dans notre histoire commune, tu as encore des choses à m'apprendre et à m'expliquer. N'est-ce pas sur le terrain de la francophonie et de sa culture émergente que nous avons encore, toi et moi, par l'intermédiaire de nos enfants, tant de choses à entendre, de ces mondes nouveaux, nourris des uns, enrichis des autres, continuons à rêver ensemble pour le bonheur des nôtres. Quand le soleil a fini de répandre son or, porte bonheur sur les pierres du muret, ne faut-il pas parfois avoir la sagesse de se coucher?
Merci Francis pour cette homélie.
Homélie, c'est plutôt un compliment.
Mais oui, c'est pour ça que je pose mes mots. Il y a une vertu qui s'appelle l'humilité aussi, ou plus de la providence, une vertu chrétienne, il me semble. La charité, l'humilité, l'éthéologale, il y en a trois, je crois.
Bon,
bref,
Francis.
C'était un long extrait donc du livre de Francis de Coninck qui s'appelle lu par l'auteur.
Les 11 étapes du Caïdara.
Voilà, Sénégal, mon ami, aux éditions Néas, qui est épuisé. C'était un texte intéressant à relire, à méditer.
Métissage, moi je vois que c'est cette simple chose à dire. Métissage, il y a la pièce que j'ai beaucoup aimée, toi aussi Gérard, la pièce de Aimé Césaire, une saison au Congo, qui sera redonnée au Théâtre National Populaire du mercredi 16 octobre au vendredi 25. Nous tenterons d'en reparler une prochaine fois. J'avais signalé courant juillet qu'elle était diffusée sur France O, cette pièce. C'était vraiment un spectacle de 2h30 qui était plein de vie, plein d'énergie, un spectacle plein de métissage.
On a déjà parlé de deux émissions.
Et une expo au musée africain par un artiste sénégalais qui a une cinquantaine d'années, qui a eu deux fois le prix de la Biennale de Dakar, qui va exposer à la fondation je ne sais plus trop laquelle, etc., en France, et qui fait un hommage à Rosa Parks, vous savez, cette africaine
qui dans le bus avait refusé
qui avait refusé de céder la place
afro-américaine.
Voilà. Et donc, il monte une installation avec toutes les figures emblématiques des blacks, hommes et femmes qui ont contribué à l'amélioration du statut des blacks dans le monde.
Et les droits civiques. Et pour finir avec les petits profs, il y a aussi des profs qui font des expos merveilleuses, on ne le sait pas assez, dans des lycées. Par exemple, le lycée La Cassagne a une galerie d'art, il faut le savoir, dans le troisième. Et il y a un prof qui a organisé l'exposition autour des fameuses histoires de ce sans-papier mozambicais. Excellent travail de photographique. Donc les photos sont exposées autour de, j'ai oublié son prénom, vous le connaissez, les gens du premier surtout le connaissent très bien.
Et il y a aussi Loujopo,
il n'y a pas Loujopo, il y a Babylas qui va passer on parlera tout ça plus tard.
On en reparlera.
Il y a Babylas qui a sorti un album depuis mai, alors on passe du Sénégal au Bénin, et qui va jouer au Fil à Saint-Étienne. Nos amis stéphanois nous écoutent. Au Fil, le 8 novembre, il joue avec trois autres groupes.
Et jusqu'à dimanche, une figure emblématique de la danse française, américaine, qui a permis...
Caroline
Carlson, avec une pièce qui est une reprise d'il y a deux ans, qui est une pièce interprétée par sept femmes, avec un plasticien américain vivant à Lyon qui travaille avec la danse depuis. Malheureusement, j'ai un trou de mémoire. Et elle fait aussi une performance à la Sucrière.
Et la Biennale Hors les Normes a commencé. Et à mon avis, il y a plus de choses à voir à la Biennale Hors les Normes qu'à la Biennale d'Art Contemporain de Lyon, qui est assez indigente. Il faut y aller pour le savoir et d'apercevoir soi-même.
Je coupe les micros, au revoir tout le monde. Salut les amis.
Allez.
Moi, je suis en train de diffuser, j'aurais pu diffuser Janelle Monáe qui chante Queen sur la rentrée 2013, la nouvelle compilation des Inrecuptibles, mais ce que je diffuse, c'est plutôt Mélanie de Biasio, The Flow, extrait de l'album No Deal, et je crois qu'il est temps d'écouter notre générique. Bon allez, voilà, je ne diffuse pas tout. Pascal est déjà en place pour le blues des Canuts. Spectaculaire, touche à sa fin, même on a peut-être dépassé l'heure. Premier auditeur, si vous avez eu le sentiment que c'était l'avalanche d'informations en fin d'heure, rendez-vous sur le blog pour avoir des précisions sur tous les liens de ces endroits et de ces manifestations que nous avons annoncées. Spectaculaire s'achève mercredi 2 octobre 2013. Nous nous retrouvons mercredi prochain, le 9 octobre, et puis le suivant, le 16, et on continuera ça jusqu'à la fin de l'année, ou même encore après, en 2014, 2015, 2016 et tout ça. Francis s'en va, Gérald s'en va également, et moi je cède le micro. Pascal, Blues des Canuts, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canuts. Salut tout le monde, ciao. Salut.